Les dernières paroles, Jean chapitre 17. Introduction. Lecture de l'étude. Le ministère de grâce de Christ aux yeux du monde est terminé. Ses entretiens pleins d'amour avec les disciples ont pris fin. Tout sur la terre étant achevé, le Seigneur regarde vers le ciel, vers cette maison dans laquelle il va si prochainement entrer. Nous avons écouté les paroles du Seigneur lorsqu'il parlait du Père à ses disciples. Maintenant, c'est notre privilège, bien plus grand, d'écouter les paroles du Fils alors qu'il parle de ses disciples au Père. Cette prière se distingue de toutes les prières en raison d'abord de la personne glorieuse qu'il exprime. Qui, sinon une personne divine, pourrait dire « afin qu'ils soient un comme nous » verset 11, et encore « afin qu'eux aussi soient un en nous » verset 21. De telles déclarations ne pourraient jamais sortir de lèvres humaines. Nier la déité de sa personne et ses mots deviendraient les blasphèmes d'un imposteur. Cette prière se distingue ensuite par son caractère unique. On a fait remarquer qu'en sont absentes toute pensée de confession, toute allusion, même lointaine, à un aveu de péché, toute expression marquée par un sentiment de démérite ou d'imperfection, toute reconnaissance d'infériorité ou toute demande de secours. Nous sommes en outre arrêtés par son étendue. Nous écoutons quelqu'un qui parle d'une éternité avant la fondation du monde, comme ayant eu part à ce passé glorieux. Nous l'entendons parler de sa marche parfaite sur la terre. Nous sommes conduits jusqu'aux jours apostoliques par quelqu'un pour qui le futur est un livre ouvert. Nous écoutons des paroles qui embrassent toute la période du pèlerinage de l'Église sur la terre, et nous entendons les désirs du Seigneur pour ceux qui croiront en lui par les paroles des apôtres. Enfin, nous sommes transportés en pensée dans une éternité encore à venir, lorsque nous serons avec Christ et comme Christ. Et, tandis que nous écoutons ces épanchements du cœur du Seigneur, nous sentons que, s'il est encore question de notre passage à travers le monde, nous sommes néanmoins transportés au-delà des choses passagères du temps pour contempler les choses immuables de l'éternité. Aussi nécessaire que soit le lavage des pieds, aussi béni que soit le fait de porter du fruit, aussi précieux que soit le privilège de rendre témoignage et de souffrir pour Christ, ce n'est pourtant guère cela qui est en vue, mais plutôt ces choses plus grandes qui, tout en pouvant être connus et goûtés dans le temps, appartiennent à l'éternité. La vie éternelle, le nom du Père, les paroles du Père, l'amour du Père, la joie de Christ, la sainteté, l'unité et la gloire sont des choses éternelles qui subsisteront lorsque le temps, avec sa nécessité pour nous du lavage des pieds, ses occasions de service, ses épreuves et ses souffrances, aura passé à jamais. Enfin, en écoutant cette prière, nous apprenons quels sont les désirs du cœur de Christ, de sorte que le croyant peut dire « Je connais les désirs de son cœur pour moi ». Il doit en être ainsi, car la prière parfaite est l'expression du désir du cœur. Hélas, quant à nous, nos prières peuvent souvent devenir une pure forme et, comme tel, exprimer seulement ce que nous aimons que les autres prennent pour le désir de notre cœur. Nul élément de cette nature n'entre dans cette prière. Tout y est aussi parfait que celui qui prie. Dans sa prière, le Seigneur présente plusieurs requêtes au Père, mais elles peuvent toutes être groupées sous les trois désirs principaux qui en constituent les grandes divisions. D'abord, le désir que le Père soit glorifié dans le Fils, versets 1 à 5. Deuxièmement, le désir que Christ soit glorifié dans les saints, versets 6 à 21. Troisièmement, le désir que les saints soient glorifiés avec Christ, versets 22 à 26. Le Père glorifié dans le Fils, chapitre 17, versets 1 à 5.
Lecture de la parole. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. »
Lecture de l'étude. Chaque expression et chaque requête dans les cinq premiers versets du chapitre 17 a en vue la gloire du Père. Où que le Fils soit vu, que ce soit sur la terre, dans le ciel ou sur la croix, entre terre et ciel, son premier et grand désir est de glorifier le Père. Une telle pureté de motif est au-delà de ce que l'homme déchu peut concevoir. La pensée naturelle est de se servir de la puissance, quelle que soit la forme qu'elle puisse revêtir, pour se glorifier soi-même. Telle était la pensée des frères de Jésus selon la chair, lorsqu'il disait « Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde » Jean 7, verset 4. Qu'est-ce sinon dire pratiquement « Fais usage de ta puissance pour te glorifier toi-même » Hélas, l'histoire ne montre-t-elle pas que chaque fois que le pouvoir est confié à un homme, que ce soit par Dieu ou par ses semblables, il s'en sert pour se glorifier lui-même. Après avoir été investi du pouvoir, le premier chef des nations précipite sa chute en disant « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4, verset 30. Tout le ciel peut bien s'unir pour proclamer « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, car lui seul se sert de la puissance pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l'homme. » Le Seigneur désire une gloire infiniment plus grande que celle que le monde peut offrir, car il dit « Glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et c'est de cette gloire suprême qu'il désire glorifier le Père. Verset 2. L'autorité lui avait déjà été donnée sur la terre, déployée lors de la résurrection de Lazare et utilisée pour la gloire de Dieu, comme il le dit au bord du sépulcre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Le Seigneur demande maintenant une gloire qui soit proportionnée à son autorité. L'autorité lui avait été donnée sur toute chair, afin qu'il glorifie à Dieu en accomplissant ses conseils. Dans ce monde, nous voyons la puissance terrible de la chair animée par Satan. Toutefois, pour notre consolation, nous apprenons par cette prière qu'une puissance au-dessus de toute autre puissance a été donnée au Seigneur, de sorte qu'aucune puissance de mal, si grande soit-elle, ne peut empêcher Christ d'accomplir les conseils de Dieu pour donner la vie éternelle à tous ceux que le Père a donnés au Fils. Verset 3. Cette vie trouve son expression la plus élevée dans la connaissance et la jouissance de notre relation avec le Père et le Fils. Elle n'est pas, comme la vie naturelle, limitée à la connaissance et à la jouissance des choses naturelles et des relations humaines. Elle n'est pas confinée à la terre, ni liée au temps, ni terminée par la mort. C'est une vie qui nous rend capables de connaître la communion avec les personnes divines et d'en jouir. Elle nous transporte en dehors du monde, au-dessus de la terre, au-delà du temps et dans les régions de la gloire éternelle. Verset 4. Mais si le Seigneur désire glorifier le Père dans sa nouvelle place dans le ciel, il l'a déjà fait dans sa marche sur la terre et dans ses souffrances sur la croix. Qui d'autre que le Seigneur pourrait lever les yeux vers le ciel et dire au Père « Moi, je t'ai glorifié sur la terre ». Hélas, l'homme déchu a déshonoré Dieu sur la terre. L'homme a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu pour être un vrai représentant de Dieu devant l'univers. Toutefois, maintenant que l'homme est tombé, si le monde devait se former ses propres idées sur Dieu, en partant de l'homme, la conclusion serait que Dieu est un être impur, égoïste, cruel et vindicatif, sans sagesse, amour ni compassion. C'est là, en fait, la terrible conclusion à laquelle les païens sont parvenus, en présumant que Dieu est tel que l'un d'eux. Ainsi, ils se sont fait des dieux qui, comme eux-mêmes, sont corrompus, cruels et égoïstes. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible. Ainsi, au lieu de glorifier Dieu en étant une fidèle représentation de Dieu, l'homme a déshonoré Dieu sur la terre. Mais lorsque nous nous tournons de l'homme déchu vers l'homme Christ Jésus, le Fils, nous voyons quelqu'un qui, à chaque pas de son sentier, a glorifié Dieu. À sa naissance dans ce monde, l'armée céleste peut dire, en contemplant son Créateur, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Maintenant, à la fin de sa course, le Seigneur peut dire « Moi, je t'ai glorifié sur la terre ». Il a pleinement révélé le caractère de Dieu et pleinement maintenu tout ce qui était dû à Dieu. Il a déployé sa gloire devant tout l'univers. En Christ, Dieu a été manifesté en chair, vu des anges aussi bien que des hommes. Plus encore, Christ n'a pas seulement glorifié Dieu dans sa marche sur la terre, mais par-dessus tout, il a glorifié Dieu sur la croix, car il peut dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire ». Là, il a revendiqué la justice de Dieu en relation avec le péché et manifesté l'amour de Dieu envers le pécheur. Christ parle ici selon l'humanité parfaite qu'il avait prise. Comme homme, il avait glorifié Dieu et achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. En tant que croyant, c'est notre privilège de marcher comme lui a marché, d'être ici-bas pour la gloire de Dieu et d'achever l'œuvre qui nous a été confiée, sans toutefois jamais oublier que l'œuvre qu'il est venu accomplir à la croix doit à tout jamais demeurer unique. Nul, sinon le Fils, ne pouvait entreprendre et achever cette grande œuvre. Verset 5. Au verset 5, nous sommes admis à entendre des requêtes auxquelles aucun homme ne peut avoir part, car ici le Seigneur parle comme Fils éternel et présente des demandes auxquelles seul quelqu'un qui est Dieu peut avoir part. D'abord, le Seigneur peut dire « Glorifie-moi, toi, Père ». Certes, nous pouvons désirer avoir nos corps de gloire afin que Christ soit glorifié en nous, et par conséquent dire « Glorifie Christ en moi ». 2 Thessaloniciens 1, verset 10.
Quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru.
Mais qui, sinon une personne divine, pourrait dire « Glorifie-moi » ? Deuxièmement, sa prière s'élève à un plan plus élevé, car le Seigneur ajoute « Auprès de toi-même ». Seul le Fils éternel qui est dans le sein du Père pouvait demander une gloire égale à la gloire du Père. Celui qui parle ainsi prétend à l'égalité avec le Père. En outre, quand le Seigneur poursuit en parlant de la gloire que j'avais, il revendique une gloire qu'il possédait dans l'éternité comme personne divine, non pas une gloire qu'il a reçue, mais une gloire qu'il avait. Alors il peut dire « la gloire que j'avais auprès de toi », expression qui implique non seulement qu'il était une personne divine, mais aussi une personne distincte dans la déité. Enfin, il parle de cette gloire comme de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Elle était en dehors du temps, elle appartenait à l'éternité. Il était une personne divine, une personne distincte dans la déité, et il était une personne éternelle. On a dit à juste titre, nous l'entendons parler dans la pleine conscience d'une part d'être le même tant avant que le monde fût que maintenant, et d'autre part d'une gloire qu'il avait comme étant la sienne propre dans la communion éternelle avec Dieu. Christ glorifié dans les saints, chapitre 17, versets 6 à 21.
Lecture de la parole. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Moi, je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux, et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé.
Lecture de l'étude. Le désir premier et prééminent du cœur de Christ est d'assurer la gloire du Père. C'est là le grand objet de la première partie de sa prière. Le second désir du cœur de Christ est que lui-même soit glorifié dans ses saints, comme il peut le dire « Je suis glorifié en eux », verset 10. Ce désir semble être à la base des requêtes de cette nouvelle partie de sa prière. Le Seigneur, dans sa marche sur la terre, avait glorifié le Père dans le ciel. Maintenant qu'il prend sa place dans le ciel, il désire que ses disciples le glorifient dans leur marche sur la terre. Pour réaliser ce désir, il place dans une grâce très touchante les pieds de ses disciples dans le sentier que ses pieds avaient suivi devant le Père. Versets 6 à 8. Dans les premiers versets de cette partie de sa prière, le Seigneur désigne ceux pour lesquels il prie, et il présente les traits caractéristiques qui les lui rendent chers et qui motivent sa prière en leur faveur. D'abord, ils sont un petit groupe d'hommes qui ont été tirés du monde et donnés à Christ par le Père, et ainsi aimés par Christ en tant que don du Père. Deuxièmement, ils sont une compagnie à laquelle le Seigneur avait manifesté le nom du Père. Dans l'Écriture, un nom présente tout ce qu'une personne est. Lorsque Moïse est envoyé par l'Éternel à Israël, il dit qu'ils demanderont quel est son nom. Cela revient à dire, si je leur dis ton nom, ils sauront qui tu es. Ainsi, la manifestation du nom du Père est la déclaration de tout ce qu'est le Père. Troisièmement, non seulement le Seigneur avait fait connaître le Père, mais il avait donné à ses disciples les paroles que le Père lui avait données. Il partageait avec eux les communications qu'il avait reçues du Père, afin que non seulement ils apprennent qui est le Père dans tout son amour et toute sa sainteté, mais que, par les paroles, ils apprennent la pensée du Père. Si la parole révèle qui il est, les paroles révèlent son propos et ses pensées. Enfin, ils sont une compagnie qui, par grâce, avait répondu à ces révélations, et ainsi le Seigneur peut dire d'eux, « Ils ont gardé ta parole. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils les ont reçus, les paroles. Ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Et finalement, ils ont cru que toi tu m'as envoyé. » Versets 9 à 11. Ayant ainsi désigné ceux pour lesquels il prie, le Seigneur donne à connaître dans une grâce touchante pourquoi il prie pour eux. Pensant toujours au Père, le Seigneur déclare, comme première raison de prier pour eux, ils sont à toi. Le Seigneur a déjà dit, ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Mais il peut encore dire, ils sont à toi. Ils n'avaient pas cessé d'être au Père du fait que le Père les avait donnés au Fils. Car le Seigneur ajoute, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Cette double affirmation est riche de signification, car, comme a, paraît-il, dit Luther, n'importe qui pourrait à juste titre dire à Dieu, tout ce qui est à moi est à toi. Mais nul être créé ne pourrait ajouter, et ce qui est à toi est à moi. C'est une parole qui appartient à Christ seul. Puis, comme deuxième grande raison de prier pour ses disciples, le Seigneur ajoute, « Je suis glorifié en eux. Nous sommes laissés dans ce monde pour représenter celui qui est monté dans la gloire, et la mesure dans laquelle Christ est vu dans les siens est la mesure dans laquelle il est glorifié devant le monde. » Enfin, il y a encore une autre raison qui suscite la prière du Seigneur. Christ n'est plus dans le monde pour protéger les siens par sa présence effective avec eux. Il va au Père, tandis que les siens sont laissés en arrière, au milieu d'un monde mauvais qui est Christ. Combien ils auront alors besoin de la prière du Seigneur en leur faveur. Verset 11. Avec la dernière partie du verset 11, après avoir entendu les raisons de la prière du Seigneur, nous passons aux requêtes précises que le Seigneur adresse au Père. Ces demandes sont au nombre de quatre. D'abord, que ses disciples soient gardés dans la sainteté. Deuxièmement, qu'ils soient un. Troisièmement, qu'ils soient gardés du mal. Enfin, qu'ils soient sanctifiés. Nous pouvons tout de suite apprécier combien ces requêtes sont nécessaires, car si Christ doit être glorifié dans les siens, combien il importe qu'il soit saint de nature, uni de cœur, séparé du mal et sanctifié pour être utiles au Seigneur. La première requête est que les disciples soient gardés en accord avec le nom du Père Saint. Cela implique que nous nous maintenions dans la sainteté que sa nature réclame. Pierre, dans son épître, peut avoir eu cette demande à l'esprit lorsqu'il exhortait ceux qui invoquent le Père à être saints dans toute leur conduite. Le deuxième désir du Seigneur est exprimé dans les mots, afin qu'ils soient un comme nous. Il est important de se souvenir que la sainteté vient avant l'unité, car le danger existe de chercher l'unité aux dépens de la sainteté. C'est ici la première des trois unités auxquelles le Seigneur fait allusion au cours de sa prière. C'est d'abord l'unité des apôtres. Le Seigneur désire qu'ils soient un comme nous. C'est une unité de but, de pensée et de propos, comme elle existait entre le Père et le Fils. Versets 12 à 14. Versets 12 à 14. Entre la deuxième et la troisième requête, il nous est accordé d'entendre le Seigneur présenter au Père les raisons de son intercession. Quand il était dans le monde, il avait gardé ses disciples au nom du Père et les avait préservés de toute la puissance de l'ennemi. Maintenant que le Seigneur s'en allait au Père, il nous est donné d'entendre ses paroles, afin que nous sachions qu'il ne cessera pas de nous garder, même si la méthode est différente. Avant de s'en aller au Père, il voudrait nous faire savoir que nous sommes placés sous les soins pleins d'amour du Père. Il s'ensuivrait que la joie de Christ serait accomplie dans les disciples. Comme le Seigneur avait marché dans la jouissance sans nuage de l'amour du Père, ainsi il voudrait que nous marchions dans la joie de savoir que nous sommes aux soins du Père qui nous aime de l'amour éternel et immuable dont il aime le Fils. De plus, le Seigneur a donné à ses disciples la parole du Père. La parole du Père est la révélation des conseils éternels du Père. Entrant dans ses conseils, nous buvons au fleuve de ses délices, un fleuve qui va s'élargissant, nous portant tout au long des âges millénaires jusque dans l'océan de l'éternité. Ainsi, comme le Fils, les disciples auraient non seulement la joie de savoir qu'ils étaient l'objet de l'amour protecteur du Père, mais ils connaîtraient aussi la bénédiction que l'amour s'était proposée pour eux. Enfin, s'ils jouissaient de la portion du Fils devant le Père, ils partageraient aussi sa portion en relation avec le monde. Le monde a haï Christ parce qu'il n'était pas de lui. Il n'y avait rien de commun entre Christ et le monde. Il n'était qu'un étranger ici-bas, avec des motifs et des buts totalement étrangers à ce monde. S'il était incompris et haï, nous aussi, si nous suivons son chemin, nous serons haïs par le monde. Ainsi, dans une grâce touchante, les disciples sont placés devant le Père dans la même position que celle que le Fils avait occupée devant le Père comme homme sur la terre. Le nom du Père leur est révélé. La parole du Père leur est donnée. Les soins du Père leur sont assurés. La joie de Christ est leur joie. L'opprobre et le caractère d'étranger de Christ sont leur portion dans ce monde. Versets 15 et 16. Le Seigneur revient maintenant à ses requêtes. Les deux premières requêtes étaient liées à des choses dans lesquelles le Seigneur désire que ses disciples soient gardés, la sainteté et l'unité. Les deux dernières requêtes sont davantage en rapport avec des choses desquelles il désire qu'ils soient préservés. C'est ainsi que le Seigneur demande que les disciples soient gardés du mal qui règne dans le monde. Il ne demande pas qu'ils soient ôtés du monde. Le moment pour cela n'était pas encore revenu, car il avait du travail à leur confier dans le monde. Mais le monde, étant mauvais, est un danger toujours présent pour les siens. Aussi, demande-t-il, que tu les gardes du mal. Verset 17. La séparation effective du mal n'est pas suffisante. C'est pourquoi le Seigneur demande aussi notre sanctification. La vérité caractéristique dans la sanctification n'est pas seulement la séparation du mal, mais plutôt la consécration à Dieu et un état qui soit en accord avec lui. La sanctification pour laquelle le Seigneur prie n'est pas la sanctification absolue qui est assurée par sa mort, telle qu'elle nous est présentée dans l'Épître aux Hébreux, où nous lisons « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Chapitre 10, verset 10. Ici, il s'agit de la sanctification pratique par laquelle nous sommes dépouillés de tout ce qui n'est pas selon Dieu dans nos pensées, nos habitudes et notre marche pratique, afin que nous soyons sanctifiés, utiles au Maître. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. Nous comprenons, d'après les paroles du Seigneur, qu'il y a deux manières par lesquelles cette sanctification pratique est produite. D'abord, par la vérité. Le Seigneur parle de la vérité comme étant ta parole, c'est-à-dire la parole du Père. Toute écriture, en fait, est la parole de Dieu. Mais la parole du Père a probablement davantage en vue le Nouveau Testament, révélant le nom du Père, la pensée du Père et le conseil du Père. Toute déclaration du nom de Dieu exige une séparation correspondante du monde et une sanctification à Dieu. À Abraham, Dieu a déclaré « Je suis le Dieu Tout-Puissant » et il ajoute immédiatement « Marche devant ma face et sois parfait » Genèse 17, verset 1er. À Israël, Dieu s'est révélé comme l'Éternel et Dieu veillait à ce que les voix d'Israël correspondent à ce nom. Il devait craindre ce nom glorieux et terrible, Deutéronome 28, verset 58.
Si tu ne prends pas garde à faire toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, pour craindre ce nom glorieux et terrible de l'Éternel ton Dieu.
Combien plus devrait-il y avoir une sanctification qui corresponde à la pleine révélation de Dieu comme le Père? Verset 18. Cette séparation du mal et cette sanctification à Dieu sont en vue du service des disciples, afin qu'ils soient moralement aptes à remplir leur mission. Nous pouvons le déduire des paroles du Seigneur qui suivent. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Le Seigneur avait déjà considéré les disciples comme étant dans la même position que lui devant le Père. Maintenant il les voit comme ayant la même place que lui devant le monde. Verset 19. Nous apprenons à présent qu'il y a une seconde manière par laquelle le Seigneur produit notre sanctification pratique. Le verset 17 nous a parlé de l'effet sanctifiant de la vérité. Ici, le Seigneur parle de se sanctifier lui-même, afin que nous soyons sanctifiés par la vérité. Le Seigneur prend cette place à part dans la gloire, afin de devenir un objet pour attirer nos cœurs hors de ce présent siècle. Nous n'avons pas seulement la vérité pour éclairer notre esprit, sonder notre conscience, et nous encourager dans le chemin, mais nous avons, en Christ, dans la gloire, une personne vivante pour agir avec puissance sur nos cœurs. Attirés par ses perfections et soutenus par son amour, nous nous trouverons de plus en plus sanctifiés par la vérité qui est présentée d'une manière vivante en lui. Versets 20 et 21. À ce point de sa prière, le Seigneur, dans une grâce très touchante, pense à tous ceux qui croiront en lui par la parole des apôtres. Il considère les longs siècles qui suivraient et englobe dans ses requêtes tous ceux qui composeront son assemblée. En relation avec ce cercle plus large, le Seigneur ajoute une deuxième requête pour l'unité des siens, unité un peu différente pourtant de la première. Là, l'unité était limitée aux apôtres, et c'était la demande qu'ils soient un comme nous. Ici, le cercle étant plus vaste, c'est la demande qu'ils soient un en nous. C'est assurément une unité formée par leur intérêt commun dans le Père et le Fils. Quant à la position sociale, aux capacités intellectuelles ou à la possession de biens matériels, il peut y avoir et il y aura de grandes différences. Mais le Seigneur demande que, en nous, le Père et le Fils, ils soient un. Cette unité devait être un témoignage au monde, une preuve évidente que le Père avait dû envoyer le Fils pour produire un tel résultat. N'y a-t-il pas eu, au jour de la Pentecôte, une réponse partielle à cette prière, quand la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme? Les saints glorifiés avec Christ, chapitre 17, versets 22 à 26.
Lecture de la parole. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.
Lecture de l'étude. Le Seigneur, dans la première partie de la prière, a prié pour la gloire du Père. Dans la deuxième partie, il pense aux siens et demande que, pendant le temps de son absence, il soit gardé pour sa gloire, qu'il soit glorifié dans les saints. Dans cette dernière partie, le Seigneur passe, en pensée, à la gloire à venir et demande que les siens soient glorifiés avec lui. Verset 22. Ayant ce grand but devant lui, le Seigneur peut dire « La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée. » La gloire qui est donnée à Christ comme homme, il l'assure aux siens et la partage avec eux. Cette gloire, il l'a donnée aux siens afin qu'ils soient un. Cette unité est si parfaite que rien moins que l'unité entre le Père et le Fils ne peut lui servir de modèle, comme le Seigneur peut le dire, afin qu'il soit un, comme nous, nous sommes un. Verset 23. Les paroles qui suivent nous disent comment les saints seront consommés en un, et aussi le grand but pour lequel ils sont faits un. Le Seigneur indique comment l'unité est produite en disant « moi en eux et toi en moi ». Cela nous conduit jusqu'à la gloire lorsque Christ sera parfaitement manifesté dans les saints, de même que le Père est parfaitement manifesté dans le Fils. Qu'est-ce qui a ruiné l'unité, dispersé et divisé les saints de Dieu sur la terre? N'est-ce pas l'admission dans notre vie de tant de choses qui ne sont pas de Christ? D'ailleurs même, si tous les saints sur la terre, à un moment donné, avaient été l'expression de Christ seul, cela n'aurait guère montré l'unité dont parle le Seigneur dans ces derniers versets. Il ne faudra rien de moins que toute la compagnie des saints dans la gloire pour manifester d'une manière adéquate la plénitude de Christ. Éphésiens 1, verset 23.
L'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Alors Christ et Christ seul sera vu dans les siens. Nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, verset 13. Les saints, si longtemps dispersés et divisés sur la terre, seront consommés en un dans la gloire. Ils exultent ensemble avec chant de triomphe, car ils verront face à face. Ésaïe 52, verset 8.
Elles élèvent la voix, elles exultent ensemble avec chant de triomphe, car elles verront face à face quand l'Éternel restaurera Sion.
Le grand but de cette unité parfaite est la manifestation devant le monde de la gloire de Christ comme l'envoyé du Père et de l'amour du Père pour les disciples. Lorsque le monde verra Christ manifesté en gloire dans les siens, ils connaîtront que celui qu'ils ont méprisé et haï était véritablement l'envoyé du Père, et ils réaliseront que les rachetés de Christ, qu'ils ont rejetés et persécutés, sont aimés par le Père du même amour que le Père a pour Christ. Verset 24. Il y a en outre une gloire bien supérieure à la gloire qui sera manifestée au monde, et, au-delà de la bénédiction millénaire de la terre, il y a un cercle plus intime de bénédiction céleste. Dans cette sphère plus intime de bénédiction, les saints auront leur part, car le Seigneur peut dire « Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi ». Dès le début des entretiens, le Seigneur avait révélé le grand désir de son cœur de nous avoir auprès de lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Maintenant, une fois encore, alors que la prière touche à sa fin, ce désir de son cœur nous est rappelé quand nous entendons le Seigneur dire « Je veux » que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Mais si nous devons avoir le grand privilège d'être avec lui là où il est, il subsistera toujours une gloire personnelle appartenant à Christ que nous contemplerons mais que nul ne peut partager. Christ, comme Fils, aura toujours sa place unique auprès du Père. Il y a une gloire qui est propre à Christ. Il y a un amour qui est propre à Christ, l'amour dont il a joui avant la fondation du monde. Et il y a une connaissance qui lui est propre, car le Seigneur peut dire « Père juste ». Et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Les saints connaîtront que celui à qui appartient leur propre gloire, cet amour, cette connaissance, est celui qui a été envoyé par le Père pour faire connaître le Père. Ils sont ainsi distingués du monde qui ne discerne pas que le Fils était l'envoyé du Père. Verset 26. Aux siens, le Seigneur fait connaître le nom du Père, et la déclaration du nom du Père révèle l'amour du Père, afin que la conscience de l'amour du Père, que le Seigneur a toujours connu et goûté dans son chemin, puisse être connue et goûtée par ses disciples. De plus, si cet amour est en eux, Christ, celui que le Père aime, aura sa place dans leurs affections. Il sera en eux. Ainsi, en écoutant ces dernières paroles, nos pensées restent remplies du grand désir de son cœur que Christ soit dans les siens, moi en eux. Sans nul doute, ce désir de son cœur sera accompli dans la gloire à venir. Mais ne pouvons-nous pas dire que la grande pensée de ses derniers entretiens, comme aussi de sa dernière prière, est que Christ soit vu d'une manière vivante dans les siens dès maintenant. À cet effet, nos pieds sont lavés, notre cœur est réconforté, notre vie porte du fruit et notre esprit est enseigné. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet d'écouter sa dernière prière qui se termine par ces mots « Moi en eux ».